Musicopolis. Weil, New York, 1943. Après quelques semaines passées à Hollywood à travailler pour la Paramount, Kurt Weill revient à New York et dans sa maison de New City, à une heure environ de Manhattan. Il aime sa petite ville, il aime Brook House, sa maison typique de Nouvelle-Angleterre, couverte de bardeaux de bois et au pied de laquelle coule un petit ruisseau. Une maison qu'il trouve bien plus agréable que les belles villas de Californie. Beaucoup de travail l'attend puisque sa prochaine comédie musicale doit être créée début octobre. En attendant, il devient citoyen des États-Unis le 27 août 1943. C'est pour lui un grand moment qu'il savoure intensément. La première idée de ce qui va devenir la comédie musicale One Touch of Venus remonte à novembre 1941, lorsqu'une amie parle à Kurt Weill du roman humoristique anglais The Tinted Venus, roman de la fin du 19e siècle. Il s'agit d'une variation sur le thème de Pygmalion et Galatée. Un jeune barbier passe une bague au doigt d'une statue de Vénus. Celle-ci s'éveille et elle poursuit le barbier. Mais lorsqu'elle découvre le quotidien d'une ménagère moderne, elle préfère retourner sur l'Olympe. Avec cette intrigue, Weill imagine un genre d'opéra bouffe qui pourrait rappeler la belle Hélène d'Offenbach. Il cherche donc des collaborateurs et s'adresse d'abord à Ira Gershwin, qui refuse. Ira est dans une sorte de retraite à Hollywood et il n'a pas envie de travailler pour New York.
Morning time and evening time and summer time and winter time.
Pour One Touch of Venus, Weill va finalement collaborer avec Cheryl Crawford, une productrice très habituée à Broadway et très efficace pour monter des comédies musicales. À cette époque, Cheryl travaille sur une version révisée de Porgy and Bess de Gershwin pour transformer l'opéra en une comédie musicale qui pourra s'installer dans le répertoire de Broadway. Il faut aussi trouver un librettiste et quelqu'un qui se charge des paroles des chansons. En général, ce sont deux spécialités différentes. Après un premier essai malheureux, le choix se porte pour le livret sur Sidney Perelman, humoriste et scénariste des films des Marx Brothers, et sur le poète Ogden Nash pour les lyrics.
Tell me, is love still a popular suggestion or merely an obsolete art? Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with his heart. I'm a stranger here myself. Why is it wrong to murmur I adore him when it's shamefully obvious I do? Does love embarrass him or does it bore him? I'm only waiting for my cue. I'm a stranger here myself. I dream of a day, of a gay, warm day with my face between his hands. Have I missed the path? Have I gone astray? I ask and no one understands. Love me or leave me, that seems to be the question. I don't know the tactics to you. But if he should offer a personal suggestion, how could I possibly refuse when I'm a stranger here myself?
Un bon compositeur, un bon librettiste et un bon parolier pour les chansons, c'est le minimum nécessaire pour une bonne production de Broadway. Dans celle que monte Kurt Weill en 1943, il y aura également Agnès Demille pour la chorégraphie. Elle fait un tabac dans la comédie musicale Oklahoma, le plus grand succès de l'année. Et Elia Kazan pour la mise en scène. Mais il faut plus, une star pour le rôle principal. Marlène Dietrich a été la première à laquelle Weill est pensé. Elle habite alors à Los Angeles et des échanges se font entre les côtes Est et Ouest. Kurt se rend à Hollywood avec la productrice. Il trouve Marlène intéressée, mais évasive. Elle interrompt les conversations pour se mettre à chanter en s'accompagnant d'une scie musicale, instrument dont elle vient de s'enticher. Elle-même vient à New York et elle fait de nombreuses visites au Metropolitan Museum pour longuement regarder statues et tableaux de Vénus. Finalement, quand elle lit le livret bien avancé, elle refuse le rôle, le trouvant trop sexy et profane. Elle estime qu'en tant que mère d'une fille de 19 ans, elle ne peut pas se comporter sur scène comme elle l'a fait par le passé.
He called me Naughty Lola, the wisest girl on earth. At home my pianola is worth all it's worth. My boys all love my music, I can't keep them away. So my little pianola keeps working night and day. They call me Naughty Lola, the wisest girl on earth. Home, my pianola is worth all it's worth. Now I'll tell you a secret. Don't hammer on the keys, for a little pianissimo is always bound to please.
Trouver une star pour tenir le rôle de Vénus à Broadway n'est pas chose facile. Plusieurs grandes actrices et chanteuses sont approchées, des européennes, puisque les auteurs veulent que la déesse soit un peu exotique. Mais elle refuse, et à la fin, la proposition est faite à une américaine, Mary Martin, dont le nom n'est pas très connu, raison pour laquelle on n'avait pas retenu son nom dans un premier temps. Elle s'était fait connaître à Broadway en 1938 en chantant « My heart belongs to Daddy ». Puis elle avait fait quelques films à Hollywood, sans grand succès. Elle-même ne pouvait pas croire qu'on pense à elle pour un rôle initialement proposé à Marlène Dietrich, encore moins pour le rôle de Vénus. Néanmoins, elle se rend dans un appartement de Manhattan pour entendre le compositeur lui jouer sa partition. « Toute ma vie, se rappelle-t-elle, je me souviendrai de cet homme s'accompagnant au piano et chantant le charmant numéro « That's him » avec un son vibrant à l'allemande.
« You know the way you feel when there is autumn in the air. That's him. » The way you feel when Antoine has finished with your hair. That's him. That's him. You know the way you feel when you smell bread baking. The way you feel when suddenly a tooth stops aching. Wonderful bird, wonderful you that sing. As simple as a swim in summer, not arty, not actory. He's like a plumber when you need a plumber. He's satisfactory. You know the way you feel when you want to knock on wood. The way you feel when your heart is gone for good. Wonderful world, wonderful you. That's him. You can shuffle him with millions, soldiers and civilians. I'd pick him out. In the darkest caves and hallways, I would know him always, beyond the doubt. Identification comes easily to me, because that's he. You know the way you feel about the Rhapsody in Blue. That's him, that's him. The way you feel about a hat created just for you, that's him, that's him. You know the way you felt when you heard about repeal, the way you feel that you really shouldn't feel. Wonderful world, wonderful you, that's him.
Je désirais vraiment chanter cette chanson, écrit Mary Martin, mais je ne me voyais toujours pas en Vénus. Son mari l'emmène alors au Metropolitan Museum pour voir toutes les représentations différentes de la déesse en lui promettant qu'elle aurait les plus beaux costumes du monde. Pour s'en assurer, cet époux obligeant contacte le grand couturier Maine Boucher qui a fait une partie de sa carrière à Paris. Le couturier demande d'abord à entendre Mary chanter. À nouveau, tout le monde se retrouve dans le même appartement new-yorkais où Kurt Weill s'installe à nouveau au piano. Pendant que Kurt jouait l'introduction de That's Him, se souvient Mary, j'ai attrapé une petite chaise que j'ai placée juste devant Maine. Je me suis installée de profil et j'ai chanté That's Him en le regardant droit dans ses gentils yeux marrons.
You know the way you feel when there is autumn in the air. That's him. That's him. The way you feel when Antoine has finished with your hair. That's him. That's him. You know the way you feel when you smell bread baking. The way you feel when suddenly a tooth stops aching. Wonderful world, wonderful you.
Après que Mary Martin ait chanté, le couturier lui dit « Je ferai les costumes si vous me promettez une chose, que vous allez toujours chanter cette chanson de cette manière. Apportez une chaise jusqu'à la rampe, chantez par-dessus l'orchestre pour le public comme s'il était une seule personne. » C'est bien ce qu'a fait Mary dans le charmant négligé que le couturier a dessiné pour elle, l'une des 14 tenues dans lesquelles elle apparaît au cours du spectacle.
Speak love when you speak love. Our summer day withers away. Too soon, too soon. Speak love.
ships adrift, we're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon.
Après l'avant-première de One Touch of Venus à Boston, Kurt Weill est interviewé par le Boston Sunday Post le 26 septembre 1943. Il y révèle qu'il réalise lui-même tout le travail d'orchestration de ses comédies musicales une fois que les répétitions sont commencées et qu'il peut véritablement écrire sur mesure pour les chanteurs. Monsieur Weill, dit l'article, compositeur d'opéra dans son pays d'origine, l'Allemagne, longtemps avant qu'il ne voue son talent et ses capacités au théâtre américain, a écrit lui-même chaque note de la partition. Il faut remonter très loin pour trouver cela de manière habituelle, comme c'est le cas encore à l'heure actuelle en Europe. Quelques années auparavant, Weill expliquait déjà, je cite, « Quand j'écris de la musique, je ne me sers pas d'un piano. En composant directement à la table, je garantis la simplicité de la musique. Avec un piano, des tentations pourraient surgir. Malheureusement, la plupart des compositeurs ne peuvent pas entendre ce qu'ils écrivent s'ils ne le jouent pas. » Kurt Weill, rejeté d'Allemagne comme musicien dégénéré, a voulu s'adapter à son nouveau pays, les États-Unis. Alors que son médium préféré était celui du théâtre musical, il s'est tourné à New York vers la comédie musicale de Broadway et il a réussi à se couler dans ce genre nouveau pour lui, au détriment peut-être de son art véritable. Certains pensent même qu'il s'est en quelque sorte vendu au circuit commercial capitaliste. Parmi les nombreux musiciens contraints à l'émigration à cause des nazis, soit parce qu'ils étaient juifs, soit parce qu'ils étaient communistes, ou tout simplement de gauche, ou parfois les deux, comme Kurt Weill, les réponses musicales ont été très différentes, mais tous ont vu leur horizon artistique bouleversé. Béla Bartók, arrivé à New York fin 1940, n'a pas voulu prendre de poste fixe d'enseignement, et il fait des travaux de recherche en ethnomusicologie à l'Université Columbia. À partir de l'été 43, il travaille à son concerto pour orchestre.
Thank you.
certains compositeurs émigrés se sont tournés avec succès vers la musique de film, comme Hans Eisler. D'autres ont enseigné, comme Schoenberg ou Krenek, tout en essayant de ne pas abandonner leur idéal de composition. C'est le cas aussi de Stefan Wolpe, installé comme Weil à New York et qui écrit en 1943 sept pièces pour piano sous le titre Battle Piece, pièce de bataille. Alors que One Touch of Venus marche très bien à Broadway à l'automne 1943, d'autres événements musicaux ont lieu à New York. Par exemple, le premier concert d'un tout jeune chef, Leonard Bernstein, 25 ans, qui remplace au pied levé Bruno Walter à Carnegie Hall et fait un malheur dans un programme Schumann, Rossa, Strauss et Wagner. Un concert du dimanche après-midi, retransmis à la radio, écouté par des millions d'auditeurs et qui va le propulser sur le devant de la scène. Quelques semaines plus tard, il dirigera la première exécution de sa symphonie « Jeremiah, Jérémie », avec son troisième mouvement qui représente, selon Bernstein, le cri de Jérémie alors qu'il pleure sa Jérusalem bien-aimée, ruinée, pillée et déshonorée, malgré ses efforts désespérés pour la sauver. Après la première de One Touch of Venus en octobre 1943 à New York, Elliot Carter écrit dans le New York Times. Weil, qui orchestre et arrange lui-même son travail, dont le flair pour découvrir et utiliser les particularités de style de la musique populaire est remarquable, s'est finalement senti chez lui en Amérique. Alors que dans les années pré-hitlériennes, sa musique soulignait de manière audacieuse l'amertume désillusionnée de l'injustice économique, à présent, il renvoie le reflet de son nouvel environnement et du public new-yorkais qu'il veut charmer. Sa scène sociale s'est rétrécie à la chambre à coucher et il est devenu un compositeur de partitions sophistiquées. Même son orchestration avec des solos de piano de style jazz rappelle tout le temps une atmosphère de nightclub. Elliot Carter conclut « Néanmoins, dans l'atmosphère de Broadway, où tant de musique est peu convaincante et sans vie, le soin tout artisanal de Weill et son sens raffiné du style peuvent remplacer ce qui manque dans sa musique de spontanéité et de fraîcheur. » Extrait de la suite de l'opéra Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni de Kurt Weill, le Philharmonique de Berlin dirigé par Maris Janssons. Tout le programme, la réécoute et le podcast de toute cette série Weill sont à présent sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Jean-Michel Bernaud pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Françoise Monteil pour les recherches et le site.